VOA Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington, Chérubin Dorsil et Morgane Guiriec.
Bonsoir à tous et bienvenue à cette édition du mercredi 27 juillet 2016. Au sommaire ce soir...
République démocratique du Congo, l'opposant Étienne Tshisekedi, accueilli par une marée humaine à son retour à Kinshasa.
C'est pas véritablement un retour sur la scène politique, c'est toujours le leader Maximo.
Au Burundi, Human Rights Watch dénonce les viols à répétition commis par des proches du pouvoir.
Syrie, au moins 44 civils ont été tués dans un attentat visant les Kurdes. L'attaque a été revendiquée par le groupe État islamique.
Convention du Parti démocrate, nous retrouverons nos envoyés spéciaux à Philadelphie.
Il va faire tout pour que les gens appuient Hillary Clinton lors de l'élection de novembre.
Barack Obama prononcera son discours ce soir à la convention.
Mais d'abord, le journal.
Étienne Tshisekedi est de retour en République démocratique du Congo. L'opposant historique a atterri aujourd'hui dans l'est de Kinshasa, où l'attendaient plusieurs milliers de ses partisans dans un climat politique tendu, lié aux incertitudes entourant la prochaine présidentielle. Le point sur place avec Walter Nkoy de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
L'accueil du président de l'UDPS, Étienne Tshisekedi, président de la plateforme politique appelée Rassemblement des forces actives de changement, plateforme bien sûr de l'opposition, s'est très bien déroulé ici à Kinshasa. L'avion a atterri à 14h15 et la foule, une foule vraiment compacte, est en train de l'accompagner depuis l'aéroport jusqu'en principe à sa résidence. J'ai dû prendre une moto pour venir au quartier L'Unité où se trouve le quartier général du parti UDPS et également la résidence d'Étienne Tshisekedi. La foule est très compacte sur le boulevard Lumumba. La circulation actuellement ne se fait qu'en essence, le sens qui va de l'aéroport international de Ndjili vers le centre-ville. Les gens sortent de leur maison. Certains curieux comme militants ou sympathisants sont amassés le long du boulevard Lumumba pour voir personne, le président de l'UDPS, Étienne Tshisekedi.
Merci Walter. Retrouvez les photos et vidéos de l'arrivée d'Étienne Tshisekedi à l'aéroport sur voaafrique.com et sur notre page Facebook.
Politique congolaise toujours, du nouveau sur la condamnation de l'opposant Moïse Katumbi à 3 ans de prison. La présidente du tribunal qui avait prononcé la sentence dit avoir été obligée de condamner M. Moïse Katumbi en vue d'obtenir son inéligibilité. Elle a dénoncé des pressions exercées sur elle par des autorités de la RDC en vue d'écarter cet opposant de la présidentielle censée avoir lieu à la fin de l'année.
Sachez aussi que 7 militants pro-démocratie de la coordination du Front citoyen 2016, opposés au prolongement du mandat du président Joseph Kabila, ont été interpellés aujourd'hui lors d'une manifestation de soutien au dialogue national à Bunia, dans le nord-est de la République démocratique du Congo, selon des sources locales citées par l'AFP.
L'ONG Human Rights Watch dénonce des viols collectifs répétés auxquels se livrent des jeunes miliciens proches du pouvoir burundais et des policiers depuis le début de la crise en avril 2015. Claire Morin-Gibourg.
Des membres des Imbonerakure, la Ligue des jeunes du CNDD-FDD, le parti au pouvoir, est qualifié de milice par les Nations Unies, ont, selon une enquête de Human Rights Watch, violé des femmes collectivement et de manière répétée. L'organisation a interrogé en mai 2016 plus de 70 victimes de viols rencontrées dans le camp de réfugiés de Dunda, dans l'ouest de la Tanzanie. Selon l'ONG, beaucoup de ces viols concernent des membres de familles d'opposants. Human Rights Watch ajoute que des hommes proches de l'opposition ont aussi été enlevés ou tués. Des policiers et des hommes portant des uniformes de police auraient également commis des viols. Des accusations similaires avaient été lancées en janvier dernier par l'ONU. Le responsable de la communication de la présidence burundaise, Willy Nyamitwe, a dénoncé sur Twitter une publication, je le cite, « pleine de fausseté dans le but de diaboliser le CNDD-FDD et sa jeunesse ».
Visite du président malien à Paris, Ibrahim Boubacar Keïta, a rencontré son homologue français. François Hollande a assuré que la France resterait engagée aux côtés du Mali dans la lutte contre le terrorisme. Il a salué les progrès effectués dans l'application de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, tout en rappelant la disponibilité de la France à poursuivre son soutien pour parvenir à sa mise en œuvre dans toutes ses dimensions.
Le Sénégal, un policier filmé à Dakar, alors qu'il acceptait de prendre de l'argent pour effacer une contravention, a été arrêté. Et d'après l'AFP, citons la police, une enquête a été ouverte sur cette affaire largement relayée par les médias sociaux.
L'un des deux kamikazes, auteur d'un double attentat à la voiture piégée à Mogadiscio hier, était un ancien député, selon les islamistes armés. Nathalie Barge.
Salah Nou Ismail était l'un de ceux qui ont mené l'attaque contre la base militaire de Alan, ont indiqué les Chebabs dans un communiqué à Radio Andalus. Député depuis 2004, Salah Nou Ismail avait publiquement rallié les Chebabs en 2010. La radio des islamistes a diffusé un enregistrement qu'elle lui attribue, dans lequel il justifie sa participation à l'attentat qui a fait au moins 13 morts. Deux voitures piégées conduites par des kamikazes ont explosé mardi près de l'enceinte de l'aéroport de Mogadiscio, qui abrite des locaux de l'ONU et de la MISOM. Les Chebabs contrôlent de vastes zones rurales d'où ils mènent des opérations de guérilla et des attentats suicides, souvent jusque dans la capitale.
Médecins sans frontières tire la sonnette d'alarme au Nigeria. Plus de 500 000 personnes vivent dans une situation sanitaire catastrophique dans le nord du pays.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Au moins 44 personnes ont été tuées aujourd'hui dans la ville syrienne à majorité kurde de Qamishli dans une attaque suicide. Attaque revendiquée par le groupe État islamique qui affirme répondre aux raids de la coalition anti-djihadiste soutenant les forces kurdes. Jacques Aristide.
Cet attentat qui a également fait environ 140 blessés, dont plusieurs grièvement, est le plus important à toucher cette ville du nord-est syrien. Il a été perpétré dans un secteur de l'ouest de Qamishli, où se trouvent des services de sécurité de l'administration kurde. Dans un communiqué, le groupe État islamique affirme que l'attaque a été commise par un kamikaze à bord d'un camion piégé en réaction aux raids aériens sur la ville de Minbej, fief des djihadistes assiégés depuis plusieurs semaines par des combattants kurdes et arabes syriens. Ce n'est pas le premier attentat contre les Kurdes à Qamishli, une ville dont le contrôle est partagé avec les forces du régime de Bachar al-Assad. Le Pentagone considère les Kurdes comme la force la plus efficace dans la lutte contre les djihadistes en Syrie. Le groupe État islamique a été expulsé de plusieurs villes par les unités de protection du peuple kurde, soutenues par les frappes de la coalition dirigée par Washington.
En France, la police des polices a conclu que le dispositif de sécurité sur la promenade des Anglais de Nice, le soir de l'attentat du 14 juillet, n'était pas insuffisant, contrairement aux accusations de la droite et de l'extrême droite. Cet attentat a fait 84 morts et 435 blessés. L'attaque de Nice a été revendiquée par le groupe État islamique.
Par ailleurs, les dignitaires religieux français, le président François Hollande et les responsables politiques ont assisté ce mercredi à une messe en la cathédrale Notre-Dame de Paris. Il s'agissait, selon certains assistants, de réaffirmer leur foi et montrer qu'ils n'ont pas peur. Des personnalités du gouvernement comme de l'opposition y ont pris part, loin des polémiques politiques surgies après l'attentat du 14 juillet sur les conditions de sécurité à Nice.
Visite du pape François en Pologne. Le chef de l'Église catholique est arrivé à Cracovie, où il a appelé les Polonais aujourd'hui à accueillir tous ceux qui fuient la guerre et la faim. Le souverain pontife est revenu sur un thème souvent abordé, la crise migratoire en Europe et ailleurs dans le monde. Devant les autorités polonaises, il a demandé un supplément de sagesse et de miséricorde pour dépasser leur peur.
L'opposition vénézuélienne est à nouveau dans la rue et elle continue de réclamer l'organisation du référendum contre le président Nicolas Maduro, pendant que le camp gouvernemental cherche à interdire le parti adverse pour fraude. Le président Maduro, élu en 2013 jusqu'en 2019, fait face à un parlement contrôlé par une coalition de centre-droit depuis les élections législatives de décembre 2015.
Ici aux États-Unis, Donald Trump a déclaré qu'il n'avait rien à voir avec la Russie, accusé de vouloir aider le républicain à gagner l'élection présidentielle. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Maintenant, place à notre segment spécial sur la convention du Parti démocrate, ici aux États-Unis. Présidentielle américaine, c'est le troisième jour de la convention démocrate à Philadelphie. Sur place, Tatiana Mosso, notre envoyée spéciale. Tatiana, quel est le programme aujourd'hui ?
Encore des rencontres entre représentants et délégués démocrates. Aujourd'hui, les caucus concerneront les jeunes, les Afro-Américains, les Hispaniques ou encore les syndicats. Comme hier, ce n'est qu'à partir de 16h véritablement que les différentes personnalités vont intervenir sur la scène de l'aréna. On monte en puissance pour ce soir, du lourd, du très lourd, après le discours hier de Bill Clinton. On attend aujourd'hui celui du vice-président Joe Biden et puis évidemment celui du président Barack Obama. En attendant ce programme prestigieux, on a pu déjà voir plus tôt dans la matinée le colistier de Hillary Clinton, Tim Kaine, venu saluer les participants de cette convention. L'ancien sénateur de Virginie, plutôt de nature discrète, va devoir s'habituer au bain de foule et aux projecteurs.
Fait marquant hein, de cette convention, Tatiana, les partisans de Bernie Sanders continuent de manifester.
Effectivement, quoi qu'il arrive, les alentours du Wells Fargo Center étaient très calmes ce matin, mais le complexe qui accueille cette convention reste survolé par les hélicoptères ce matin encore. Les forces de sécurité restent plus que jamais sur le qui-vive et les services secrets semblent tendus, surtout après le début de soirée d'hier, durant lequel un mouvement spontané des pro-Bernie Sanders ont envahi la salle de presse tout de suite après la nomination de Hillary Clinton.
Mais Tatiana, pourtant Bernie Sanders lui-même encourage ses partisans à voter pour Hillary Clinton.
À chacune de ses apparitions, Bernie Sanders n'a pas manqué de rappeler les raisons pour lesquelles il soutenait Hillary Clinton. Il a rappelé que le but de cette unité était de pouvoir battre Donald Trump à l'élection présidentielle. Alors la question qui reste entière ici, c'est que peut faire Hillary Clinton pour convaincre ses irréductibles supporters de Bernie Sanders? Jusqu'où iront-ils? Que nous réservent-ils jusqu'à la fin de la convention? En tout cas, il reste encore 2 jours à suivre et je vous prie de croire que l'ambiance est assez électrique ici.
Tatiana Mosso, envoyée spéciale de VOA Afrique à Philadelphie. Merci.
Passons maintenant à l'autre envoyé spécial de VOA Afrique à la convention démocrate de Philadelphie, Idrissa Seloudia. Idrissa, bonsoir.
Bonsoir Gabi.
Le discours du président américain Barack Obama, ce sera certainement le clou de la soirée. Qu'est-ce qu'on peut dire en prévision de ce discours ?
Bon, il va faire tout pour que les gens appuient Hillary Clinton lors de l'élection de novembre. Clairement, il ne veut pas que Donald Trump passe. Et il a dit que Hillary Clinton est la personne la plus qualifiée à se présenter pour la présidentielle ici aux États-Unis.
Que peut faire Barack Obama de différent par rapport au discours de Bill Clinton hier soir ?
Bill Clinton s'est évertué, lui, à parler de sa femme, à présenter sa femme à ceux qui ne la connaissent pas, par exemple, parce qu'il y a eu beaucoup d'attaques contre elle et les sondages montrent qu'elle n'est pas très populaire. Donc, il a essayé de leur montrer un visage qu'ils ne connaissent pas en tant que mari, en tant que père de leur fille, ainsi de suite. Et aussi, il a été témoin de certaines causes qu'elle a défendues, pour lesquelles elle s'est battue. Et c'était l'occasion de dire qu'elle est différente de Donald Trump et qu'en réalité, c'est un agent du changement, contrairement à ce qu'on dit. Et il s'est mis à énumérer tout ce qu'elle a accompli quand elle était à la tête du département d'État et bien avant même qu'elle ne se jette dans la politique.
Vous voulez dire que le discours du président Obama sera moins personnel ?
Il sera moins personnel et je crois que déjà il a commencé parce qu'il a été interviewé ce matin par la chaîne de télévision NBC. Et là, il s'est mis à dire carrément que Donald Trump ne sait pas de quoi il parle et que c'est pourquoi c'est dangereux. Et que c'est pour cette raison qu'il pense que Hillary Clinton, qui a une bonne connaissance des dossiers, sera la personne qu'il faut élire en novembre.
Barack Obama est-il assez populaire maintenant à travers les États-Unis pour représenter un atout majeur pour la campagne de Mme Clinton ?
C'est ça l'ironie de la situation, parce qu'en écoutant les républicains, on a l'impression que rien ne marche dans ce pays. Et ils en attribuent la responsabilité à Barack Obama et aussi à Hillary Clinton qui a travaillé avec lui. Et étrangement, les sondages le montrent avec une cote de popularité assez inhabituelle pour un président qui termine 8 ans à la tête du pays.
Merci Idrissa Seloudia.
Merci Gabi.
Idrissa Seloudia, envoyé spécial de VOA Afrique à la Convention démocrate à Philadelphie, en Pennsylvanie.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Morgane Guiriac et Chérubin Gabi Dorsil en votre compagnie. Place au dossier du jour. Première escale ce soir, Kinshasa.
Pour parler du retour d'Étienne Tshisekedi. Il est rentré à Kinshasa dans un climat politique très agité, il faut le dire. L'opposant historique est arrivé dans son pays après 2 ans d'absence et l'incertitude entoure toujours la prochaine présidentielle. Récemment à Bruxelles, l'opposition a créé une plateforme pour faire face à la majorité présidentielle. Dimanche, Étienne Tshisekedi va présider un meeting de l'opposition à Kinshasa. Que représente la réapparition de cet octogénaire sur l'échiquier politique au Congo? Eric Manirakiza a joint le professeur Jean-Claude Willem à l'Université catholique de Louvain en Belgique. Il est chercheur sur la RDC.
Ce n'est pas véritablement un retour sur la scène politique. Il était handicapé, il était malade déjà depuis 2 ans. Il s'est fait soigner en Belgique. Quelqu'un que je connais très bien, qui l'a vu, me disait qu'effectivement, il allait très diminué. Il s'endort pendant les interviews. Mais évidemment, il a tout un entourage autour de lui, parce que c'est toujours le leader maximo. Son entourage le prend pour le futur président de la République, qu'il aurait dû être, d'après lui, déjà aux dernières élections, où il déclarait qu'il y avait eu tricherie aux dernières élections de 2011. Quoi.
Mais il est quand même vieux pour être président.
C'est un dieu pour son entourage. Moi, j'entends certains Quinois qui le traitent, même pas les intellectuels, mais des gens du peuple ou des gens qui sont de la classe moyenne ou de la petite classe moyenne qui disent « Bon, c'est de l'histoire ancienne, c'est ce qui est dit. »
Récemment, ils ont créé un rassemblement, une plateforme de l'opposition. Est-ce que vous pensez que c'est une opposition qui peut aller jusqu'au bout?
C'est lui, effectivement, qui préside ce rassemblement dans lequel il n'y a qu'une partie de l'opposition. Mais vous savez, l'opposition, tout comme une partie de la majorité, ce n'est pas très structuré, hein. C'est conjoncturel, ce rassemblement. Ça n'est pas nécessaire que ça tient la route longtemps. Mais bon, Tshisekedi, c'est une figure pour certains Congolais, donc il reste malgré tout politiquement encore une image importante. Mais bon, on se dit, il y a pas mal de gens qui disent c'est un peu le passé, Tshisekedi, quoi. On
oui.
voudrait du neuf.
Selon vous, que peut-il apporter aujourd'hui à son âge avec son influence qu'il avait il y a quelques années?
Mais c'est difficile à dire parce que j'ai difficile à le voir véritablement comme futur président à l'âge qu'il a. Et surtout, je vous dis, physiquement, il est quand même fort diminué.
Jean-Claude Willem de l'Université catholique de Louvain en Belgique. Vous trouvez les photos et vidéos de l'arrivée d'Étienne Tshisekedi à l'aéroport sur voafrique.com et sur notre page Facebook.
Pour la première fois de son histoire, les États-Unis ont une femme candidate à la tête d'un des 2 grands partis politiques. Mais les symboles et les poids lourds démocrates suffiront-ils pour convaincre les sceptiques? Pourquoi cette fronde persiste-t-elle au sein des pro-Sanders? Washington Forum vous emmène à Philadelphie, en Pennsylvanie, au cœur de la convention démocrate, avec tous nos invités. Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique. Je vous donne rendez-vous ce jeudi à 19h, temps universel.
Le Togo organise pour la première fois une fête foraine consacrée essentiellement aux produits togolais. La foire Made in Togo vise à promouvoir des produits du terroir. Reportage à Lomé de notre correspondante Kayi Lawson.
Le savoir-faire togolais en matière d'artisanat, de transformation agroalimentaire, en technologie ou encore en ingénierie est exposé sur le site du Centre togolais des expositions et foires CETEF à Lomé, et ce, à l'actif de la foire Made in Togo. L'événement est à sa première édition et se veut une vitrine des produits et services togolais. Bernadette Legezim Balouki, ministre de l'Industrie et de la Promotion du secteur privé.
On a voulu rendre visible ce qui est produit au Togo et aussi inciter les jeunes créateurs dans tous les domaines à venir montrer leur génie créateur.
À part les produits agroalimentaires qui veulent promouvoir la transformation locale, la plupart des articles ou services proposés à la fois à Made in Togo veulent répondre à un besoin. C'est le cas de l'application Reliqua. Wassa Napo, commercial à la société Reliqua.
Reliqua, c'est la solution qui vous permet de ne plus perdre vos monnaies après des achats. Désormais, il est possible de récupérer cette monnaie sur votre numéro de téléphone. Il vous suffira après l'achat de communiquer votre numéro de téléphone au pharmacien ou bien au boutiquier et vous envoie cette monnaie sur votre compte Reliqua.
Réduire la pénibilité des travaux de décorticage de certaines légumineuses et céréales, c'est l'objectif poursuivi par le Centre de recherche, d'invention et d'innovation technologique qui fabrique des machines spécialisées. Abdelaziz Douti du Dicentre.
Ici, nous avons une machine qui permet de décortiquer l'arachide. En 10 minutes, vous pouvez décortiquer 5 kg d'arachide ou bien d'haricots.
Des machines qui pourraient un jour fonctionner à base du biogel, de l'éthanol sous forme de gel que propose l'ingénieur Cody Essama Egbare.
Nous avons fait le modèle de telle sorte que le pack de 9 litres de biogel puisse équivaler à une bouteille de 6 kg de gaz butane. Nous voulons donc introduire au Togo le modèle qui consiste à incorporer ce bioéthanol à l'essence.
Pour pouvoir faire la promotion des produits Made in Togo en dehors de cette fête foraine, une centrale d'achat des jeunes entrepreneurs du Togo vient d'être mise en place. La foire Made in Togo court jusqu'au 2 août prochain. Occasion d'y découvrir ou de redécouvrir le génie créateur togolais. Kailosson Lomé, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique au Togo sur Canal FM à Lomé, sur Radio Tchaudio à Sokodé et sur Radio Excelsior à Atakpamé.
La France est aujourd'hui le pays d'Europe le plus meurtri par les attentats terroristes. Pour comprendre comment ce pays est devenu le plus ciblé par les djihadistes, Anastasie Tudiech a joint à Paris Anne Giuticelli, directeur de Terrorisque, cabinet d'analyse et de stratégie sur les risques politico-sécuritaires.
D'abord, contrairement par exemple à l'Espagne ou l'Italie, la France est dans la coalition contre l'État islamique, non seulement en Irak, mais aussi en Syrie. Non seulement elle le revendique, mais véritablement la France définit sa participation à la coalition comme un axe majeur de politique extérieure. Et ensuite, elle joue tout à fait le jeu de l'État islamique, puisqu'à chaque fois qu'il y a un attentat, la réaction, c'est de renforcer le dispositif mis en œuvre au sein de la coalition. Et que donc, c'est sur la base des attaques et de l'existence même de la coalition montée contre elle que l'État islamique peut ensuite davantage recruter. Et elle en fait un axe, elle, de son côté, de lutte contre les pays participant à la coalition la visant.
Que peut le politique face à cet ennemi invisible ?
Il faut déjà changer de discours. Ce n'est pas à faire un acte de transparence que de dire que nous serons bientôt encore exposés. En termes de communication politique, c'est quand même afficher une forme de faiblesse qui ne peut que susciter de nouvelles actions. Déjà, mettre en œuvre les dispositions qui ont été mises en place après rien que janvier 2015, les attentats de Charlie Hebdo. Ensuite, on répète les mêmes erreurs que pourtant un vrai retour d'expérience au niveau global permettrait d'éviter. C'est notamment l'expérience américaine de l'Afghanistan et de l'Irak. Le fait de ne recourir qu'au seul militaire et sécuritaire ne peut que contribuer à amplifier le phénomène et à exposer davantage nos pays. Il y a un travail de fond qui n'a toujours pas été fait, qui est celle de se donner les moyens de répondre à la question de comment on en est arrivé là. Et donc là, ça pose des problématiques, je dirais, culturelles, identitaires. Qu'est-ce que c'est qu'être français aujourd'hui ? Qu'est-ce que c'est que la France, l'Europe ? Elles ont toujours été considérées comme secondaires. C'est quand même des problématiques qui auraient dû être traitées il y a 20 ans, toujours été baignées, si vous voulez, par les politiques, et qui, aujourd'hui, leur revient à la figure, alors que c'était possible à traiter auparavant, et maintenant on s'interroge à savoir si ce n'est pas déjà trop tard pour notre pays.
Anne Giuticelli, jointe à Paris.
L'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco avec John Lindon.
Le président nigérien Muhammadu Buhari a inauguré hier le premier train à grande vitesse de la principale économie d'Afrique qui compte 180 millions d'habitants. C'est une réalisation chinoise $1 milliard reliant la capitale Abuja à la ville de Kaduna sur près de 200 kilomètres. Le billet coûtera 1,5 $ en deuxième classe. La Banque mondiale a suspendu sa contribution financière au projet de barrage hydroélectrique Inga 3 en RDC. En mars 2014, la Banque mondiale avait approuvé un don de $73 millions pour ce projet. Le coût total de ce barrage, qui a pour ambition de fournir du courant à l'Afrique tout entière, est estimé à $12 milliards. Le groupe Apple a subi un nouveau recul des ventes de l'iPhone. Sur les 3 mois achevés, Apple a écoulé plus de 40 millions d'iPhones. Résultat, Apple n'a réalisé qu'un bénéfice net de près de $7 milliards, soit une chute de 27%.
Nous avons maintenant en studio Nicolas Pineau pour l'actualité sportive. Salut Nicolas.
Bonsoir cher humain.
Football, Mazembe dans le dernier carré de la Coupe de la Confédération.
Le tout-puissant Mazembe, champion d'Afrique en titre, s'est qualifié pour les demi-finales ce mercredi à Lubumbashi. Le club congolais est en effet certain de finir à l'une des deux premières places du groupe A grâce à sa victoire 1-0 face au Mouloudia Béjaïa. Le Zambien Rainford Kalaba a fait la différence sur un tir à bout portant. Les Algériens de Béjaïa disputeront l'autre place en demi-finale face aux Ghanéens de Medeama qui ont battu hier 3-1 les Young Africans. À suivre ce soir le match du groupe B, le derby marocain, le FUS de Rabat contre le Kaokab de Marrakech.
Un mot du mercato, Nicolas.
L'attaquant international guinéen de Bastia, François Camano, doit s'engager avec Bordeaux sous réserve de la signature de tous les documents administratifs et de sa visite médicale. La durée du contrat ainsi que le montant du transfert n'ont pas été révélés, mais l'on parle d'une somme de 2,5 millions d'euros plus des bonus. Camano a 20 ans, il est arrivé à Bastia en 2013 en provenance du club guinéen de Satellite FC. C'est un joueur de couloir qui vient de disputer 47 matchs en 2 saisons avec le Sporting Club de Bastia. Il a inscrit 7 buts.
Parlons de la suite du championnat d'Afrique des Nations de basketball des moins de 18 ans à Kigali.
Le carton de la journée, la RDC qui corrige le Bénin 120-65, les Maliens qui giflent l'équipe du Gabon 91-38, la Tunisie domine l'Ouganda 89-73.
Basket toujours et la préparation pour les Jeux Olympiques qui se poursuit pour l'équipe américaine.
Les États-Unis emmenés par Kevin Durant ont dominé pour la deuxième fois en 2 jours la Chine 107-57. Le match a eu lieu mardi soir à Oakland en Californie. Durant a fait le show. Le meilleur joueur de NBA de la saison 2013-2014 a marqué les 10 premiers points de Team USA sous les yeux de la star des Warriors, Stephen Curry, qui a déclaré forfait pour les Jeux Olympiques. On rappelle qu'en phase de poule à Rio, les Américains seront opposés à la Chine, à l'Australie, au Venezuela et à la France et à la Serbie, tandis que le groupe B opposera le Brésil, l'Argentine, le Nigeria, la Lituanie, l'Espagne et la Croatie.
Voilà pour les sports. Merci Nicolas Pineau.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h temps universel. Au programme International Music, Comedy et Country Music. RM Show, c'est aussi l'interactivité en direct sur Facebook Live. Si vous voulez me voir en direct, écoutez de la bonne musique et partagez vos idées avec le reste du monde, connectez-vous sur notre page Facebook VOA Afrique à 20h temps universel. Nous avoir au téléphone, appelez au 001-202-619-3140. Vos SMS et WhatsApp au 001 703 350 37 31. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
C'est la fin de cette édition. Michel Joseph et Nelson Lopez en ont assuré la partie technique à la présentation Morgane Guériac et Chérubin Gaby Dorsil.
Ainsi va le monde aujourd'hui. Merci d'être à l'écoute de VOA Afrique, votre fenêtre sur l'actualité. Merci à nos 1,5 million de fans sur Facebook. On maintient la conversation, partagez vos photos et vidéos, envoyez-nous vos questions et commentaires. Et enfin, n'oubliez pas de visiter notre site internet voafrique.com pour plus d'infos 24 sur 24.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM. Kledou FM, Bamako. Raga FM, Goma. 96.5 Fraternité FM, Parakou, Bénin. Et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.